Rachel de Adam, insoumise et diaboliquement mythique. Martine, la fille parfaite des livres pour enfants.
Et les autres?
Ben, c'est nous, quoi. C'est vous.
Et on a fait une blague qui disait « Lilith, Martine et les autres sont sur un bateau qui tombe à l'eau. »
Le patriarcat.
Un vendredi sur deux, 18h, Lilith, Martine et les autres, pirates les autres de Radio Canu, pour une heure de mutinerie féministe.
Radio Canu, 102.2.
Le premier...
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est le retour de Lilith, Martine et les autres. Il est 18h sur les ondes de la plus rebelle des radios. Et on arrive ce soir avec une émission encore full impro. Ah, peut-être pas complètement quand même, j'exagère.
Mais avec plein d'invités. Et ça, on est bien contentes. Du coup, pendant une heure, eh ben, on va vous parler des brochures. Qui parle de qu'est-ce qu'on fait de la justice, surtout qu'est-ce qu'on fait des agresseurs. Et puis quand même, on ira d'un côté plus littéraire. On va vous lire un petit conte de Noël. Et puis vous lire des poèmes, enfin voilà. Partager des choses qu'on avait envie de vous partager.
Bah, on commence
fort.
Fort. Alors je sais pas, je vous préviens, j'ai préparé du coup... mes petites impressions, une petite synthèse improvisée, pas très synthétique, vous allez voir que j'ai un peu foiré ma préparation, sur du coup une brochure sur laquelle je suis tombée cette semaine et qui est rédigée par le collectif féministe, oui féminin probablement, toulousain Bagarre, et qui s'intitule « Ceci n'est pas un call-out, se positionner pour une vraie autodéfense féministe ». Alors j'ai tout de suite eu envie de m'y plonger, et ce avec des sentiments un peu mitigés. Pour commencer, à la fois avec de l'enthousiasme, parce que le call-out, cette pratique qui consiste à dénoncer publiquement un agresseur, elle est souvent critiquée, souvent dévoyée aussi, mais qu'elle m'apparaît perso comme un outil nécessaire pour l'autodéfense féministe, et ce qui quoi, je me perds déjà, hein, et ce qui compris dans nos milieux, et ce y compris, pardon, dans nos milieux affinitaires et militants. Et pourtant, j'ai l'impression de manquer de ressources théoriques pour y réfléchir et l'expliquer, donc enthousiasme. Enthousiasme, mais pas que, aussi appréhension, parce que, comme je l'ai mentionné, le call-out, c'est un outil souvent critiqué, associé à une justice punitive qui ne serait pas souhaitable dans nos milieux, trop violente, associé à une prétendue pureté militante, et ce, de manière culpabilisante, je trouve, pour les personnes qui ont déjà eu recours, et ce, d'ailleurs, rarement par gaieté de cœur. Et finalement, je ne maintiendrai pas le suspense plus longtemps, c'est plutôt l'enthousiasme pour moi qui l'a emporté devant cette brochure réfléchie, je trouve, bien argumentée et structurée, qui a l'immense mérite pour moi d'être solide sur ses bases politiques et qui adresse une à une les questions que soulève le call-out dans les milieux affinitaires et militants. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est là où le bas blesse quand on affirme que Darmanin malsain est un violeur, c'est un peu moins un problème. Alors, de quoi parle cette brochure? Je vais essayer de vous en présenter les grandes lignes, ce qui m'a personnellement le plus marqué et intéressé. Tout d'abord, elle part d'un constat et d'un contexte, celui de très nombreuses violences sexistes et sexuelles vues et vécues dans les milieux militants et affinitaires, et celui de leur mauvaise gestion ou non-gestion. Le constat également d'un backlash, retour de bâton post-MeToo, qui n'est finalement rien d'autre qu'un call-out géant, qui conduit à dénoncer ces dénonciations comme de la délation, mettre en avant la présomption d'innocence, mettre en doute la parole des victimes, et dénoncer la cancel culture. Or, dans leur brochure, Bagarre développe l'idée selon laquelle ces arguments masculinistes se retrouvent transposés et recyclés dans nos milieux militants sous la forme de plusieurs critiques, à commencer par celle de la justice punitive. Alors, la justice punitive, c'est une approche de la justice qui se concentre principalement sur la punition des auteurs de crimes ou de délits, souvent par des peines d'emprisonnement ou des amendes, plutôt que sur la réparation des torts causés aux victimes et la résolution des problèmes sociaux qui peuvent contribuer à la criminalité. Quand les féministes réformistes vont adhérer à cette forme de justice et plaider pour l'augmentation des peines de prison, convaincues qu'elles aideront à résoudre les problèmes de violence liés au genre, les féministes radicales sont elles convaincues que la seule réponse à ces problématiques se trouve dans la résolution des enjeux à leurs racines, et aussi que la justice punitive bourgeoise est profondément injuste, discriminatoire et disproportionnée. Or, l'élément de vocabulaire justice punitive, utilisé jusque-là pour désigner l'État et ses méthodes de répression, est importé dans les milieux féministes et queer pour dénoncer les outils d'autodéfense féministe et leurs stratégies. Ce à quoi tente de répondre ici le collectif Bagarre. Alors, je vous propose d'écouter quelques petits extraits sur une sorte de mash-up de ce que ça donne, en fait, cette justice punitive dans la gestion des violences sexistes et sexuelles, mais donc par la justice officielle, quoi.
Le premier flic de France, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. C'est la première fois que les deux parties se retrouvent devant le juge.
Selon la plaignante, les faits se seraient déroulés au domicile parisien de l'acteur les 7 et 13 août derniers.
Par Patrick Poivre d'Arvor, qui est visé par une enquête pour viol.
Oui, c'est l'écrivaine Florence Porcel qui accuse
la juge d'instruction a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre en cause Gérald Darmanin.
Les faits. La jeune femme étudiait dans une école dans laquelle Gérard Depardieu donnait des cours.
Une adolescence difficile et une tumeur au cerveau. Florence Porcel suit des études.
If you know people who know me, you might want them to speak.
Les accusations font souvent la une, les classements n'ont lieu ou relaxent beaucoup
entendu
plus rarement.
Entendu en 2018, l'ancien ministre du budget avait reconnu une relation librement consentie.
8 femmes en tout avaient porté plainte contre lui.
Et la plainte est classée sans suite.
Patrick Poivre d'Arvor vient de se voir innocenté.
Et l'enquête avait été classée sans suite par le parquet de Paris.
Enquête classée sans suite pour prescription ou insuffisance de preuves, annonce le parquet de Nanterre, Justin Morin.
Le parquet de Paris estime que l'enquête ne permet pas d'établir l'absence de consentement.
L'enquête pour viol disant Luc Besson a été classé sans suite.
Le Premier ministre a appelé à respecter la présomption d'innocence.
Il y a deux policiers qui viennent me voir. La première chose qu'ils me disent, en fait, c'est « Mais vous êtes sûr que vous voulez porter plainte ?» Parce que il peut prendre 15 ans et ça peut ruiner sa vie au commissariat. Ils lui disent que je suis hystérique et qu'on ne peut pas recueillir mes propos.
C'était des questions du genre « Est-ce que vous savez, mademoiselle, que si vous déposez une fausse plainte, c'est préjudiciable par la loi ?»
Vous entrez dans une pièce, il y a 6 femmes. Statistiquement, il y en a 2 qui ont été victimes d'un viol ou d'une tentative de viol.
En 2017, ce sont 3 enquêtes sur 4 pour viol qui ont été classées sans suite.
La charge de la preuve va peser finalement sur la victime qui va devoir prouver qu'elle n'était pas fausse. D'une certaine manière, comme s'il y avait une présomption.
Et puis ensuite, Emmanuel Macron fait un peu la leçon en parlant d'une forme de république du soupçon.
Alors, quelle réponse fait le collectif à celle qui avance l'argument de la justice punitive pour quitter critiquer le call-out, c'est-à-dire de dire que faire des call-out dans nos milieux affinitaires, militants, ce serait l'équivalent de cette justice punitive dont là on a entendu quelques extraits. Malheureusement, ce serait trop long et probablement indigeste de me contenter ici de lire la brochure. Pourtant, vous allez voir que j'en reprends quand même. Enfin, si vous lisez la brochure derrière ou si vous l'avez lu, vous allez voir que je reprends quand même un peu les formulations. Mais je vais tenter d'en résumer les grandes lignes et les arguments marquants, ou en tout cas qui, moi, m'ont marqué. Alors, déjà, la dénonciation des VSS, donc les violences sexistes et sexuelles dans les milieux militants, est un combat qui a été arraché de haute lutte. Jusqu'il y a peu, elle rappelle que dénoncer des VSS revenait quasiment systématiquement pour la victime à s'auto-exclure et pleuvait les accusations de diviser la lutte, ça provoquait de l'indifférence, voire même des violences. Elles avancent également que critiquer les outils d'autodéfense féministe par le prisme de la justice punitive, c'est une tentative de bâillonner à nouveau les victimes. On accuse de briser des vies et on vide de toute essence politique les VSS. On devrait dès lors gérer les agressions et les viols grâce à la gestion des conflits et une dénonciation de viol deviendrait à présent des récits qui s'affrontent. On remet en cause les pratiques féministes en inversant l'angle de vue finalement. L'accent est mis sur les oppresseurs et plus sur les opprimés. Et la notion de soins communautaires féministes et queer est mise au service des agresseurs et des violeurs et non plus des victimes. L'exclusion, le call-out sont rangés dans le sac d'une justice punitive et seraient donc motivés par le besoin de punir les auteurs de VSS. Et rien que cette approche pose problème parce qu'elle concentre l'attention sur les agresseurs et les violeurs qui sont vus comme des victimes de punitions injustes et non pas sur la nécessité d'adresser en fait les problèmes qu'on va rencontrer. Le concept même de justice punitive sous-entend que les militantes ont le même pouvoir aussi que le système judiciaire étatique et les mêmes conséquences. Ce qui n'est évidemment pas le cas, même si c'était et même si ça avait été ce que souhaitaient les personnes qui ont recours à cet outil-là. Et de fait, même quand elle rappelle que même quand les exclusions sont décidées, la personne exclue profite souvent d'une solidarité qui fait que son exclusion, elle est très rarement effective, ce qui conduit d'ailleurs automatiquement, en revanche, à l'exclusion de fait de la personne qui a été agressée. Le collectif, il s'interroge aussi d'une manière que je trouve plutôt juste sur le fait que la justice punitive n'est finalement mise en avant que lorsqu'il s'agit de parler des VSS. Alors là, je vais citer un petit extrait. Pourquoi les questions des VSS sont-elles traitées différemment des autres questions d'autodéfense collective? Si des fachos viennent attaquer nos événements ou lieux militants, devons-nous tendre l'autre joue? Devons-nous comprendre les motivations personnelles de nos agresseurs et leurs émotions? Envisageons-nous de proposer une justice restauratrice entre les personnes trans harcelées par Dora Mouto et cette dernière? Allons-nous un jour envisager d'accompagner l'extrême droite grâce à une médiation pour qu'elles arrêtent de menacer les shows de drag queen? Allons-nous faire de la gestion de conflits avec la bourgeoisie? Limites posons-nous à notre sécurité collective? Les agressions et viols commis par nos camarades, entre guillemets, doivent-ils être traités avec plus de complaisance que les autres dangers et menaces? Nous avons conscience qu'un monde parfaitement safe n'existe pas. En tant que femmes et personnes LGBTQI+, nous sommes d'ailleurs extrêmement bien placées pour le savoir. Nous avons également conscience que la lutte est une prise de risque permanente. Être dans la lutte, militer n'est pas un confort. Et en plus de la précarité, du racisme, du sexisme, en tant que militante, nous devons faire face à la violence policière et judiciaire. Alors je vous propose de faire une petite pause musicale dans une tentative peut-être vaine de rendre plus digeste tout ça.
The Mantis. Yeah.
Komm auf deine Party. Schwarz ist meine Tarnfarbe. Lippen so rot wie die lodernden Flammen vom brennenden Nationalfahnen. Schwarzer Winkelbomber, ja, Cap Patches gegen AfD. Im Beatrix von Storch mich sieht, wie sie homosexuell erzählt. 1, 2, 3, stimmen deine Party unter Lego dabei. Feminismus oder Schlägerei. Transfix, shine bright like an Edelstein. Familie, ihre Butschenschaft, wir reißen deine Butze ab. Doch wenn die Wunder kommen, bin ich aus. Weißer, haben an den Gruppe, pack mal Buschis auf Bunker, dass wir ihre Mütze klauen und dann laufen. Einfach, wenn's darum geht, das Patriarchat zu punchen, bin ich wie Beatrix Auto, sofort Feuer und Flamme. Nein, ich bin nicht mal Schlimmsinn, trotzdem hab ich den Bart. Bring deine Binarität ins Hintern, das sind Machtkämpfe wie bei Jedi Rittern, deshalb sei dir klar. Du stehst homophob im Stroboskop. Ich komm in meiner Gang und poge dich idiotentot. So wie ein Bonobo will deine Krone holen. Denn ich bin pleite, aber niemals am Ikobito. Do, 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 do.
Sorry, not sorry.
Do.
Sorry, not sorry, not sorry, not sorry.
What?
Sorry, not sorry.
Sorry, not sorry.
What?
Warum tust du, als ob du hier der Boss wärst? Dabei bist du nur abgehoben wie Bibi Blocksberg. Du laberst meine Girls an, sie nennen dich Opfer. Sie stehen dann nicht auf Typen, die so ficken wie Roboter. Wenn du ihnen zwischen die Beine willst, treten sie in dich rein, Darling. Und lassen dich einfach stehen wie ein Nix-Mike-Fahrrad. Egal, ob sie High Heels, Nikes oder Kleid tragen. Es klatscht wie bei Stepptrans Einlagen. Wir sind queer und uns gehören die Straße. Du kannst uns nix anhaben, doch wenn wir nichts anhaben. Digga, wir machen deine Männerbund Stress. Wie kurdische Kämpferinnen, dem IS. Meine Gang hält zusammen und wir tackern dich weg. Tackern, tackern dich weg, denn du stehst homophob im Stroboskop. Ich komm in meiner Gang und poge dich idiotentot. So wie ein Bonobo will deine Kohle holen. Denn ich bin pleite, aber niemals am Nikobito. Do, 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 do.
Sorry, not sorry.
Do.
Sorry, not sorry, not sorry, not sorry.
What?
Sorry, not sorry.
Sorry, not sorry.
What?
Auf deinem Shirt lach dich aus, jetzt bist du Maka verstört. Deine Boys sind für uns Spielzeugfiguren wie Toy Story. Sorry, not sorry.
Ich kipp mein Bier über die nackte Frau auf deinem Shirt. Lach dich aus, jetzt bist du Maka verstört. Deine Boys sind für uns Spielzeugfiguren wie Toy Story. Sorry, not sorry, not sorry, not sorry, not sorry, not sorry, not sorry. Du stehst homophob. Ich komm in meiner Gang und probier dich Idiot.
Et c'était Sorry Not Sorry de Sir Mantis. Et je reprends ma petite review de cette brochure. Et d'ailleurs, me voilà bien embêtée parce que mon esprit synthèse me fait déjà défaut. Mais dans la suite de la brochure, le collectif Bagarre critique la tentation par le discours sur les VSS dans les milieux militants d'aplanir en fait les rapports de force qui se jouent dans les dynamiques patriarcales et l'idée aussi que toutes les violences se valent. Elle critique le fait que la violence du processus de call-out soit mise en avant au détriment finalement de la violence subie par les victimes et questionne le fait qu'on va questionner cette violence politique dans le cadre des VSS quand on la théorise et revendique dans d'autres contextes, comme des contextes de manif, dans la lutte des classes, jamais on va se dire on va pas être violent avec la bourgeoisie par exemple. Elles adressent aussi une critique qui m'a beaucoup intéressée sur la justice restaurative, en rappelant ses limites, en fait. Pas en disant que c'est complètement débile comme idée, mais c'est que la brandir comme un totem dans tous les cas, ça peut poser des questions parce qu'il y a des limites à la justice restaurative. Elle rappelle qu'elle ne doit et ne peut être imposée déjà aux victimes, qu'elle doit être au service des victimes et non des agresseurs, qu'elle demande une énergie et des moyens qui sont très importants pour des résultats qui sont finalement souvent médiocres. Et elle rappelle aussi, ce qui m'a semblé vraiment important, qu'on ne transforme pas les gens malgré eux. Donc ça suppose que les agresseurs s'y soumettent et soient dans une dynamique déjà de reconnaître les faits qui leur sont reprochés et acceptent d'entrer dans un processus de réflexion et de réparation. Et sous un titre de chapitre assassin aussi, le logique capitaliste du développement personnel, ouvrir ses chakras contre le patriarcat, elle rappelle également que, et là je cite, le postulat selon lequel l'accompagnement individuel permet la fin des violences patriarcales est le résultat d'une vision capitaliste, individualiste et libérale de la lutte féministe. Comment peut-on opposer à l'autodéfense collective et féministe des stratégies de développement personnel ? Penser qu'on peut éradiquer les agressions, les violences sexistes et sexuelles en cherchant des causes personnelles et individuelles à ces enjeux dénote encore une fois de l'individualisation du problème et de la dépolitisation des violences vécues. Les agresseurs n'agressent pas parce qu'elles ont une enfance difficile ou parce qu'elles ne savent pas gérer leurs émotions. Elles agressent et violent parce que la société capitaliste patriarcale crée les conditions pour que elles agressent et violent à cause de elles agressent et violent à cause de l'impunité et de la complaisance du système et de la culture du viol. D'autres choses un peu en vrac là sur ce que dit cette brochure. Elles font aussi quelques rappels de ce que permettent ces outils, que sont le call-out, l'exclusion. Elles permettent déjà de poser le problème collectivement afin de responsabiliser une communauté, un milieu et une organisation. Elles permettent aussi une vigilance et des clés d'analyse qui permettent d'analyser les comportements présents en ayant déjà analysé en fait des choses qui se sont passées par le passé. Ça nous permet aussi d'être plus vigilants, de mieux comprendre ce qui se passe quand ça se reproduit. Ça permet à toutes les victimes de parler. C'est pas rare en effet qu'un call-out, ça ouvre la voie à d'autres témoignages. C'est même très souvent le cas. Ça permet de mettre l'agresseur face à ses responsabilités et aux conséquences de ses actes. Et ça permet surtout de mettre en sécurité les victimes et de les aider dans leur processus de reconstruction. Bref, ces outils, ils permettent une protection collective des victimes. Ce n'est évidemment pas tout ce qui est dit dans cette brochure, et c'est probablement bien mal résumé, mais heureusement, vous pouvez la retrouver en ligne en version PDF, notamment sur le site de Rebellion où elle a été publiée. Je conclurai peut-être sur un point qui est également souligné dans la brochure, c'est que la notion de call-out, elle est parfois dévoyée, en étant utilisée dans un cadre qui n'est pas celui des violences sexistes et sexuelles. Mais cela prouve surtout l'incapacité du milieu à établir un cadre collectif politique clair, et en aucun cas ça ne doit servir d'excuse pour une complaisance envers les auteurs de VSS. Et ce sentiment que nos groupes affinitaires et nos milieux militants se cherchent et trouvent des excuses pour ne pas adresser correctement les VSS et critiquer les maigres outils d'autodéfense dont on dispose, c'est quelque chose que je partage vraiment et qui, je trouve, est très bien démontré dans cette brochure. On assiste à une sorte de décentrement du débat qui devrait être comment est-ce que collectivement on peut s'emparer de ce problème et lutter contre les violences sexistes et sexuelles et protéger les victimes, à une critique de celles qui parlent, dénoncent, instaurent un rapport de force, certes, entre camarades, mais en fait, peut-on dire que ceux qui violent et agressent sont encore des camarades ? Et à une critique qui souvent s'inspire d'arguments qui sont ceux de nos ennemis politiques, à savoir la cancel culture, la violence, la délation, etc. Voilà, voilà pour ma tentative de résumé de cette brochure. Du coup, ceci n'est pas un call-out du collectif toulousain Bagarre.
Ben merci, c'était passionnant. Puis ça donnera des petites armes rhétoriques pour cette fin d'année.
Oui, merci beaucoup. On va passer sur un tout autre registre parce qu'on va vous lire un conte de Noël qui a été écrit par Chloé Delhomme, qui est une écrivaine qui, entre autres, a écrit Le cœur synthétique en 2020. Et là, il s'agit de l'histoire d'une révolution au pays des reines.
Saisissez-vous de votre vin chaud.
Sapin, la mutinerie. Tandis que le pôle Nord fond de moins en moins lentement, au 1 rue des Nuages, se réveille doucement l'histoire qui va se raconter. L'histoire qui est tapie sous un dôme de cristal. Quand on le secoue, il neige. Une colline habitée. Le chemin est une spirale, sur ses bords des maisons de briquettes colorées qu'on pourrait croire en sucre. Puis d'adorables hangars en bois, rayés de planches rouges, blanches et vertes, à la toiture sertie d'un scintillant nœud d'or. Une forêt de sapins aux guirlandes de givre, où mille flammes sur la cire dansent inlassablement. Le bout de leurs branches ploie, les rubis sont des sphères. Au sommet, un chalet pointu, surmonté d'une girouette aux yeux d'émeraude et aux plumes piquetées de diamants. Ainsi, oui, tous s'éveillent dans le domaine du Père Noël. La suite après la publicité. Le soleil n'arrive pas à poindre, la nuit est gluante sous le dôme, un peu sale, couleur de soda. Alors il faut secouer la boule, dedans, ça mousse, à en manger la neige. Le soleil crève les bulles et l'histoire dit bonjour. Un calendrier de l'Avent, la toute première des cases, un pouce s'enfonce, des ongles détachent la fenêtre en carton. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre, partout s'amorce le compte à rebours. Il était une fois, en coulisses, l'ultime préparation de la nuit de Noël, dans la feuille de route dans la feuille de route de chaque être vivant résidant sur ces terres. Les lutins et les fées des glaces, les elfes non genrés, même les reines et les écureuils. Le Père Noël, lui, dirige en buvant de l'alcool de houx, laissant à son épouse le soin de gérer les commandes pendant que leurs enfants, Constance, Prudence et le jeune Raoul, se chargent du courrier. Saisis des données, listes, casse-codes, constitution de fichiers. S'il te plaît, ô Papa Noël, sur un air de Tino Rossi, repris par un rappeur au grain autotuné, les syllabes engelées, jusqu'à ce que Constance coupe le son pour passer Rebecca Warrior. Ça se passe comme ça depuis des jours, dans les bureaux du Père Noël.
La Mère Noël, cet être socialement invisible.
Constance et Prudence ont 16 ans, Raoul 14 hivers. Et cela pour toujours, car sous le dôme, il neige pour faire croire que les jours ne sont jamais les mêmes, puisque les flocons brouillent, effacent l'ardoise magique. Si Constance soupçonne ses parents de lui avoir choisi ce prénom pour l'empêcher d'être bipolaire, Prudence et Raoul ne se posent pas ce genre de questions. Ils cochent, remplissent, jeux, jouets, objets, livres, vêtements, parfums, colis fichés, car il n'y a pas que les enfants qui postent leurs lettres au Père Noël. Les adultes aussi s'y sont mis, n'ayant plus les moyens de s'acheter leurs cadeaux. Et d'année en année, les souhaits ont déferlé. Si vous existez, Père Noël, suivi de vœux existentiels. Ça ne marchait pas avec Dieu, ni les changements de gouvernement. Alors ils essaient autre chose. Ça ne leur coûte qu'un timbre. Souvent, une seule enveloppe regroupe toute une famille. Une fois que les fiches sont remplies, Constance, Prudence, Raoul et le bouton Entrée de leur ordinateur les envoient au personnage principal de l'histoire qui vient de commencer. La mère Noël a 50 ans. Qu'elle soit ailleurs ou sous le dôme, socialement, elle est invisible. C'est pour ça qu'elle a mis du temps à s'imposer narrativement, y compris dans ce conte, dont elle est pourtant l'héroïne. Ses cheveux massés en chignon, hauts et bouclés, d'un blond blanchi, ses très légères taches de rousseur, ses iris en saphir, cils de soie, bouche en cœur, elle est jolie et rien ne se lit sur son visage. Personne ne peut s'attendre à ce qu'elle va faire maintenant. Sauf les 101 fées des glaces qui travaillent avec elle au service des commandes, ainsi que les Corrigan qui sont en transition. C'est pour ça qu'elle et Yel lèvent haut, très haut leurs poings, lorsque la mère Noël, qui exige de s'appeler désormais juste Lucie, entame un chant d'espoir sur un air communiste. Debout, exploité par les pères, debout, pour un nouveau matin, nous sommes l'écho de la colère, du changement, la main, exauçons les souhaits de la base, les vœux de ces femmes à genoux, le monde va changer ses usages, les queers seront avec nous, c'est la tournée finale, les cadeaux sous le sapin, l'ordre patriarcal renverseront demain. Les reines, derrière les vitres, s'étonnent qu'un chant tout rouge, tirant sur le violet, teinte ainsi l'atmosphère de l'aile droite du bâtiment. Ne saisissant pas bien de quoi il est question, ils trottent vers le parcours d'entraînement en supputant que Lucie va enfin changer la bande-son que leur impose le patron, que dans l'urgence, elle monte une chorale, que cette année, ils échapperont à l'album de Mariah Carey au profit de chansons inédites et a priori engagées.
Le souhait d'une bonne révolution.
Les écureuils, à l'ouïe plus fine, saisissent immédiatement l'enjeu de cet instant. Ils sont polyvalents, aident donc à tous les postes. Dépouillement du courrier, saisie des contenus, orientation des demandes, fabrication, stockage, chargement de la hotte, entretien du traîneau, traçage du plan de vol, liste et ordre des visites, mise à jour de la playlist, du GPS et des emplacements d'éoliennes. Le Père Noël ne lit aucune de leurs notes de service. Il préfère boire de l'alcool de houx en suivant les stories Instagram de Mariah Carey. Il y a encore très peu d'années, Lucie prenait le temps de briefer son mari, de le tenir au courant de l'évolution des demandes, de ce qu'il y avait dans les paquets. Des souhaits qu'elle exauçait avec les fées des glaces, de la nécessité de sous-traiter avec Cupidon, les cigognes et diverses divinités secondaires. Mais depuis une poignée de calendriers de l'Avent, Lucie a décidé de cesser de s'épuiser. Ce qui fait que le Père Noël ignore ce dont rêvent sur Terre les enfants et les femmes et les non-mâles alpha. Or les non-mâles alpha, en fait, ça fait du monde. D'autant que nombre d'entre eux se remettent en question, désertant le système, refusant l'impunité. Au point qu'il ne reste plus que les masculinistes, les ouin-ouin et les types qui demandent de dire « camion » pour ne pas faire le souhait d'une bonne révolution. À ce stade de l'histoire, il n'est pas impossible que des sourcils se froncent, que derrière certains fronts, le circuit neuronal exige de marquer une pause, d'interroger maintenant ce qui rend qualifiable quelqu'un de masculiniste, de ce qui s'entend par ouin-ouin, et à quand remonte la dernière fois où on a entendu dire « camion ». Aussi se dessinent en marge de ce conte de Noël quelques définitions. Est dénommé masculiniste, un mâle humain intimement persuadé que le monde lui appartient, que les corps qui s'y trouvent, parce qu'il est né avec une bite, des pulsions qui se doivent souveraines et deux poches de sperme qui pendouillent. Est désigné par ouin-ouin, un homme qui se victimise face au rééquilibrage en cours, accusant les féministes, alors appelées féminazies, d'exagérer les faits, de généraliser la violence masculine alors qu'en fait, il y en a des biens, d'étouffer toute créativité humoristique puisqu'on ne peut plus rien dire. La preuve, essayer de leur faire le coup de 10 camions. De mettre en péril folklore et tradition en fustigeant les prédateurs et refusant les pattes des relous. Et de fomenter secrètement une nuit des grandes cisailles où, galvanisés par les slogans de leurs sœurs colleuses, leur nom serait Légion et leur serpe affûté. Le ouin-ouin est inquiet et, Kleenex à la main, il confie sa souffrance au grand modérateur, au juré de ses bois, permettant de faire taire nombre de comptes féministes sur les réseaux sociaux et de bloquer des projets très divers dans le réel. À ce stade de l'histoire, il n'est pas impossible que la narratrice ici en profite un chouïa pour ajouter un truc. Si jadis, pour draguer, le garçon à guitare jouait sur la plage Jeux Interdits, il est bon de noter que « moi je suis féministe, is the new, t'as de beaux yeux tu sais ». Au marqueur, dans la marge, en lettres épaisses et capitales, c'est écrit « Fayot, on vous voit ». Car jamais un allié n'ira s'approprier le mouvement qu'il soutient. Il dira « je suis pour », il dira « je comprends », certainement pas « je suis », conscient de l'importance de rester à sa place.
Que la biche soit en moi avec le vol de chaque flèche chasseresse. Dans les vergers des bois, telle la chasseresse que je me considère, je me sens inspirée d'un portrait sans comparaison. C'est la source de silence et de douceur. Si j'ai toujours les yeux de biche, je me montrerai lucide et charitable à bramer au clair de lune dans cette lisière paisible. Sans que la nuit soit toujours blanche, quel qu'en soit le sourire rayonnant, je laisse sortir la biche qui est en moi. Que la biche soit en moi.
Aussi bleu que dans un film de Jean Eustache.
Mais revenons plutôt à Lucie, ce qu'elle projette pour la grande nuit. Retournons aussi sec sous la sphère de cristal, dans l'aile droite du chalet, au service des commandes, bureau du Père Noël, qui actuellement se gratte le crâne, se demandant quel cadeau cette année serait capable de surprendre et de combler une femme qui a déjà tout comme Maria Carré, sans trouver ni piste ni solution, mais en faisant choir des pellicules. Lucie saisit une chaise et regarde son mari dans le fond des yeux, qu'il a aussi bleu que dans un film de Jean Eustache. Sa barbe bientôt se change d'ailleurs en une large grappe de coton hydrophile. C'est l'effet de la voix de Lucie. Lucie, qui par sa bouche enchante le Père Noël, préparant d'abord ses tympans à coups de vibes acrobatiques, se dressant soudainement, faisant valser sa chaise pour entamer devant lui une scintillante chorégraphie entourée d'ours polaires en peluche, des fées des glaces, des korriganes, des elfes et des lutins, tous revêtus de justaucorps et de tutus rouges, verts, argent. Une oreille avertie reconnaîtra l'air « All I want for Christmas is you », sur lequel se posent des paroles totalement modifiées, où Lucie expose en substance que cette nuit de Noël doit être celle du basculement. Celle où le patriarcat s'effondrera en cendres, comme un vampire à l'aube avec un pieu dans le cœur. Convaincu par la prestation, le Père Noël se resserre sans reprendre ses esprits pendant que les danseurs quittent en chenille la pièce. Ils croisent en raz-de-marée Constance, Prudence et Raoul, qui ont lâché leur poste de travail intrigués par leur affût. Lucie les accueille, tous s'assoient, fauteuil, canapé, une famille. L'espace d'un instant, ils se fixent, une famille pour l'éternité. Le père sort une seule fois par an avec ses reines. Le temps d'une nuit, le dôme brièvement se dissout, puis aussitôt se referme, lisse et rond et épais. Constance le sait, Raoul aussi. Leur mère, n'en parlons pas. Une famille pour l'éternité, prisonnier, image d'Épinal. Prudence a vu les bleus sur la peau de ses proches. Le réel, c'est quand on se cogne. Ce conte est leur réel. Prudence a vu une fée recoudre l'arcade de Constance, plâtrer de bras de Raoul. Comme elle a vu sa mère s'évanouir sous le choc, et tous les ans, son père ramené de force par les reines. Il n'en veut pas aux reines, son père. Il sait qu'ils sont écrits comme ça. L'alcool de houx, ça l'aide beaucoup, le Père Noël. Et depuis Internet, au fond, il n'est pas si malheureux. De toute façon, il pense, tout comme sa fille Prudence, que comme les reines, ils n'ont pas le choix. Leur histoire est écrite d'avance. Un rôle leur a été attribué. Un rôle, un nom. D'ailleurs, il n'a jamais eu de prénom, le Père Noël. Son ancêtre, Saint Nicolas, c'est encore un coup du catholicisme qui récupère les fêtes païennes en faisant du Jésus Wasfing. Le Père Noël, le père de la nativité. Même le jour de la nativité, le jour d'un accouchement, est symbolisé par un homme. Pense très souvent Constance que ça affecte énormément.
L'avènement de l'homme déconstruit.
Constance est comme sa mère, extrêmement réceptive au courrier des humains, à ce que leurs souhaits de Noël reflètent. Ce qu'il désire, Constance l'entend. Ce qui n'est pas le cas de sa mère, mais elle lui fait des comptes rendus. Dès qu'un vœu est prononcé sur terre, le cerveau de Constance le perçoit, le comprend, l'enregistre. Lucie, elle synthétise, en tire des graphismes, des analyses de tendances, qu'elle présente à ses troupes, désormais effectivement légion. C'est comme ça depuis quelques années, à cause des vœux des femmes. Des vœux et de leurs questions. Des questions comme « Comment fait-on pour que les hommes cessent de violer ?» Depuis quelques années, oui, Lucie et les fées des glaces, dont le rôle est de satisfaire la demande, ne savent vraiment plus comment s'y prendre. Offrir un petit chimiste spécial bromure, une panoplie pour se mettre à la place d'autrui, une banderole brodée « Le monde ne t'appartient pas plus que les corps qui s'y trouvent », un tel condensé de pédagogie ne peut pas tenir dans un paquet. Assis calmement dans la pièce, le Père Noël tire sur sa pipe, que Constance a remplie de CBD. Provoquer la chute du patriarcat, il hésite quand même un petit peu. S'interroge sur ce que ça implique. La fin de la masculinité toxique, il n'a rien contre, a priori, mais aimerait vérifier ce que Lucie et Constance entendent par l'avènement de l'homme déconstruit. Homme déconstruit, ça lui fait peur. Il se sent comme un tas de Lego, un monsieur patate en plastique que des mains aux ongles vernis s'empressent de démembrer. Lucie fait preuve de beaucoup de patience, explique des marches introspectives, réflexes, habitudes, conditionnements. Constance répète, stéréotype. Raoul le rassure comme il peut. Non, papa, il n'est pas trop tard, au contraire, c'est pile le moment. D'agir au-delà du dôme, ça galvanise Raoul, qui se sait assigné personnage secondaire. Le Père Noël regarde Prudence, dont le visage peu à peu s'anime. Intervenir si concrètement sur le destin de l'humanité, ça lui chamboule les traits, son nez paraît plus court et nettement plus pointu. Prudence prend une plume d'oie qu'elle trempe directement dans les veines de sa mère, qui s'est légèrement incisé le bras pour l'occasion. Sur le parchemin, elle écrit à mesure que tous se concertent. Il s'agit à présent de rédiger des formules, de cibler les sortilèges capables d'annihiler les paroles et actions relevant du sexisme. Comment faire pour que les hommes puissent changer au réveil ? Comprendront-ils que ce changement constitue le plus beau des cadeaux ?
Nom de code, la violette.
Lucie en perd bientôt le sommeil. Durant les jours qui suivent, ses yeux sont creusés de cernes. Elle a fait le choix de la douceur, de la bienveillance dans sa méthode. Constance voulait des sorts violents, de la vengeance, des chocs en retour. Qui crachera une insulte vomira trois chatons, avec la certitude des griffures à l'œsophage. Toute agression sexuelle aura pour conséquence une immédiate nécrose des parties génitales. Le man-interrupting engendrera des cloques sur le râpeux de la langue, des cloques remplies d'acide explosant aussitôt, ravageant les muqueuses, un charnier au palais. Le mépris et les marques de supériorité déclencheront sur le champ une dantesque diarrhée que rien ne pourra contenir, surtout pas en public. Humilier et punir, Lucie ne voulait pas. Le patriarcat devait choisir suite à un abandon. Il fallait que les hommes renoncent à l'autorité, à cette autorité culturellement acquise dès le jour de leur naissance. Il fallait que les hommes se dépouillent de leurs privilèges, de tous leurs privilèges, qu'ils partagent le pouvoir et le redistribuent. Oui, Lucie pensait ça. Constance, elle, pas du tout. Elle ne voyait pas pourquoi le dominant abdiquerait, quand bien même serait-il devenu soudain lucide face à la fin du monde, conscient que son système ne sait rien faire qu'exploiter la terre, les femmes, les enfants. Le monde, les corps, il a échoué. Dans le cerveau de Constance, un parallèle se trace entre patriarcat et aristocratie. 1789, Révolution française, quel sang bleu à l'époque chantait « Assaïra ». Raoul glisse à sa sœur. Les jeunes sont différents. En se définissant fluides, en désertant les berges de l'hétérosexualité, ils affaiblissent les rangs de la phallocratie, sans compter que nombre d'entre eux se refusent à être genrés ou à rester coincés dans leur genre initial. En rejetant le modèle, ils le mettent en péril, le rendent même obsolète. L'avenir est plein d'espoir, s'enthousiasme Raoul, à qui Constance répond « Souviens-toi de MeToo gay, les prédateurs ne sont pas seulement des hétéros. » Raoul trouve ça dommage qu'elle feigne de ne pas comprendre, qu'elle manque à ce point de patience, ça le déprime un peu. Mais bon, il fait avec. Lui aussi s'implique fort dans la prochaine tournée, dans cette nuit de Noël qui doit tout bouleverser. Événement historique, fenêtre à ne pas manquer. Sous le dôme, chacun sait, sauf peut-être les reines qui ne comprennent pas tout, qu'une révolution est en cours sur la terre, une révolution de mœurs qu'ils font le choix de soutenir. Nom de code, la violette. C'est comme ça qu'ils l'appellent, cette quatrième vague féministe qui déferle et promet grâce à eux de gonfler de tsunami. Le violet est la couleur du féminisme depuis les suffragettes. Lucie y tient beaucoup, au point de le substituer au rouge, au blanc, au vert, à l'or et à l'argent dès le papier cadeau. Lutins et écureuils remplissent déjà la hotte, les paquets, le bolduc, parmes, lilas, prunes et zinzolins. Dedans, il n'y a que des surprises. Défaire le nœud, c'est lancer le sort. Un sort adapté à chacun, mais qui sera bénéfique à tous. Lucie dit tous, pour ne plus dire tous, parce que le propre du patriarcat, c'est de s'imposer en système supérieur tout en braquant l'universel, et ça, elle ne peut plus le supporter.
Les mâles alpha tournent de l'œil.
C'est le 24 décembre, la nuit, enfin. Partout, les cadeaux s'ouvrent. En France, il est minuit, et selon les statistiques, 206 viols par jour, soit 9 personnes par heure. Au pays du fromage et du féminicide, un enfant sur 10 est victime de violences sexuelles au sein de sa famille. 96% des agresseurs sont des hommes, et tous, présentement, déchirent le papier violet.
Dis, papy, c'est quoi ton bouquin ?
L'inceste. De Christine Angot. Il n'y a pas de fumée, de nuages de paillettes. Le sort qui jaillit est invisible et envahit doucement les crânes, enveloppant les égos pour mieux les décentrer. Soudain, les mâles alpha transpirent et tournent de l'œil. Leurs agressions remontent, s'imposant en jeu de rôle. Chacun revit moult scènes du point de vue de l'abusé. Douleur, colère et honte leur grignotent le cervelet. Certains découvrent l'effet de la sidération. Tous ont envie de mourir. Pour eux, ce n'était rien. Leurs mots, leurs gestes, rien. Même entrer leur queue de force, ça leur semblait normal. Ils sont très étonnés, si déstabilisés qu'ils en perdent la parole et s'effondrent en eux-mêmes. L'empathie est la reconnaissance et la compréhension des sentiments et des émotions d'un autre individu. Ces hommes en sont dénués pour un tas de raisons relevant du culturel. Quand le monde vous appartient comme les corps qui s'y trouvent, se mettre à la place d'autrui ne peut venir à l'esprit. Autrui n'existe pas en tant qu'être sensible. C'est une sorte de concept qui prépare le repas et soulage les pulsions. Pour Lucie, c'est là qu'est le problème. Ils agissent comme des psychopathes par manque de développement psychique, mais grâce à la magie de Noël, ils ne distribueront plus de marrons. Ce qu'il se passe ensuite, ça ne dépend pas du dôme. Reconnaître et comprendre sentiments, émotions, se mettre à la place d'autrui, est-ce que ça change la donne ? Ça reste la question. Constance se laisse l'année avant de rectifier le tir. Sa sœur n'a pas d'avis, son frère est optimiste, sa mère observera les courbes statistiques avec beaucoup de crainte et sûrement des regrets. Le Père Noël, quant à lui, regarde Maria Carré vendre son menu spécial fête dans une pub McDonald's en sirotant un verre petit d'alcool de ouf. Ses baies rouges sont alcaloïdes, mais il supporte bien les cyanures. Lucie pense que le ou, c'est pareil que les humains, et qu'à force, elle aussi, elle sera immunisée. En attendant, son cœur bat au rythme de la violette. C'est désormais à nous de ne pas le décevoir.
Et voilà, on vient d'écouter un conte de Noël. Et le temps file, on aurait envie de vous lire plein de poèmes et plein de choses différentes. Moi j'avais envie de vous lire, je pense que je vais pas vous le lire en entier, mais le début d'un poème de Holly McNish, qui est extrait d'un recueil qui s'appelle « Je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi ». C'est une poétesse, une slameuse anglaise qui est née dans les années 80, qui a fait un recueil qui part vraiment de ses expériences personnelles et qui alterne petits textes courts, poèmes, contes et réflexions que moi j'aime vraiment beaucoup parce que ça part d'anecdotes, ça parle beaucoup de ses grands-mères, ça parle de son rapport au corps, ça parle de masturbation, ça parle de son rapport à la parentalité et ça politise les choses tout en permettant aussi beaucoup de douceur. Donc on va commencer par vous lire le début, en tout cas des extraits du poème « Quand je serai morte, est-ce que vous allez enfin fermer vos gueules ?» Quand j'étais jeune fille, les journaux imprimaient des histoires sur des monstres qu'ils appelaient des pédophiles. Quand j'étais jeune fille, une assemblée spéciale a été convoquée pour nous dire de faire attention. Un homme exhibait son pénis dans le parc près du lycée. Nous avons tous trouvé ça excellent et nous y sommes allés exprès. Avons cherché le long manteau, montré du doigt avec nos amis. Quand j'étais jeune fille, un journal a imprimé une liste d'adresses de domicile de gens qu'on appelait des pédophiles, justice d'autodéfense et un seul chef d'accusation. Pour ignorance linguistique, on avait graffé les murs de la maison d'un pédiatre. Quand j'étais jeune fille, j'ai acheté le disque du top 10 d'une autre jeune fille qui dansait dans un uniforme comme le mien. Elle chantait « Hit me baby one more time », je chantais « Hit me baby one more time » sans me demander si la phrase subtile du refrain parler de se faire frapper ou baiser violemment ou de remettre un disque. Quand j'étais jeune fille, mon amie fut traitée de salope parce qu'elle avait un vibromasseur. Quand j'étais jeune fille, mon amie fut traitée de sainte-nitouche parce qu'elle ne se faisait pas doigter. Quand j'étais jeune fille, la couverture de cet album montrait Britney Spears avec des nattes, les yeux rivés sur une caméra, aussi vierge qu'on puisse l'être, je ne me suis pas demandé qui réalisait. Quand j'étais jeune fille, mon ami a dit à tout le monde qu'il m'avait niqué avec ses doigts dans le jardin pendant une fête à la maison ce week-end, alors qu'en réalité il pleurait à cause d'un problème dans sa famille. Il s'est excusé au lycée. J'ai accepté de ne pas dire la vérité. Nous sommes restés des amis proches. Quand j'étais jeune fille, j'ai ouvert le CD dans ma chambre et trouvé un poster plié pour afficher à mon mur. On y voyait Britney avec un débardeur d'un blanc virginal, des dents d'un blanc virginal, à califourchon sur une chaise, les jambes écartées pour la caméra zoomée sur son entrejambe de lycéenne. Quand j'étais jeune fille, on m'a dit de ne pas mettre de tampon quand je saignais en faisant du sport, parce que cela reviendrait à perdre ma virginité avec un tampon avant d'avoir eu une bite en moi. On m'a dit de ne pas mettre de bite en moi. On m'a dit qu'en matière de sexe, seul comptait le sexe avec une bite en moi. Quand j'étais jeune fille, deux jeunes filles dans une vidéo pop russe ont reçu l'ordre de se bécoter en uniforme scolaire comme le mien, sexy devant la caméra. Elles chantaient « All the things she said, all the things she said, running through my head, running through my head ». Quand j'étais dans ma vingtaine, j'ai allaité mon bébé dans les toilettes de peur d'avoir l'air d'essayer de paraître sexy. Je ne suis toujours pas sûre exactement de savoir pourquoi j'étais gênée de nourrir un bébé avec mes seins, mais je l'étais. Quand j'ai eu 30 ans, mes amis ont organisé une soirée Botox avant notre départ en vacances parce qu'apparemment, quand tu as 30 ans, ton rire est moins séduisant. Quand j'ai eu 35 ans, on m'a dit de ne pas porter de débardeur parce que les femmes de mon âge ne montrent plus leurs bras, de peur apparemment que des chauves-souris viennent s'accrocher à la peau en dessous. Quand j'ai eu 40 ans, on m'a dit que ma libido se tarirait avec mes saignements, mais personne ne parle de la ménopause. Quand j'ai eu 50 ans, on m'a dit. Quand j'ai eu 60 ans, quand j'ai eu 70 ans, quand j'ai eu 80 ans, on m'a dit. J'espère que ça va s'arrêter un jour. Mais ma grand-mère a 92 ans et elle est à la diète parce que, dans notre famille, comme on l'a répété tout au long de ma vie, les femmes ont un mauvais estomac. Quand je serai morte, j'espère bien pouvoir m'étirer dans mon cercueil, le silence au creux de mes os. Voilà, alors c'était pas le poème le plus doux, mais ça vous montre une toute petite partie de ce que peut écrire Holly McNish.
Moi, je vais vous lire un poème de Joséphine Bacon. Donc, Joséphine Bacon, c'est une poétesse qui habite à Montréal. Elle a plus de 70 ans et elle vient d'une communauté autochtone, la communauté Innu ou Inuit, si je ne me trompe pas. Et elle écrit des poèmes en français et dans sa langue autochtone, ce qui est super important donc, pour garder cette culture. Donc, je vais vous lire un premier poème un petit peu long et un deuxième qui est très court. Et ce sera terminé. Alors, évidemment, je le lis en français. Mes os ont mal, frémissant du manque de mots. Une douleur se fige, sans pouvoir raconter qu'un hier lui échappe. Je rêve d'un seul récit qui dicterait sans faute toute une vie vécue. Tu ne me regardes pas, tu ne me vois pas, tu ne m'entends pas, tu ne m'écoutes pas, tu ne me parles pas. Tu es ici en conquérant de ma terre. Tu m'emprisonnes dans ma terre. Tu me prives de mon identité. Tu me prives de mon histoire. Tu me prives de mon territoire. Tu m'enchaînes dans des réserves que tu as créées. Je veux être maître de mon esprit. Qui suis-je? Tu ne me connais pas. Tu m'appelles montagnier. Tu m'appelles cri. Tu m'appelles tête de boule. Tu m'appelles Algonquin, tu m'appelles Naxapi, tu m'appelles Abenaki, tu m'appelles Micmac, tu m'appelles Huron, tu m'appelles Iroquois. Tu ne connais pas mes légendes, tu ne connais pas mon histoire. N'attends pas que je me fâche telle une tornade, n'attends pas que je me libère de mes chaînes. C'était donc de son livre « Nous sommes tous des sauvages ». Et le deuxième, il est très court, donc c'est de son recueil qui s'appelle « Quelque part ». Une nuit d'étoiles nous invite, elle nous raconte la grande ours. Les aurores boréales dansent les gestes de la terre. C'est la nuit des cicatrices qui pardonnent. Voilà, c'était Joséphine Bacon.
Merci. Merci. Eh bien, c'est la fin de cette émission, Lilith. On vous a partagé nos lectures de la semaine ou du moment. C'est peut-être la dernière émission de 2023.
Qui sait ?
Qui sait ?
Nous, probablement.
Et avant de vous retrouver, c'est sûr, en 2024, est-ce qu'on ne vous laisserait pas avec Rebecca Warrior ?
Compromate, ouais.
Et compromate.
Allez.
Et dans 5 minutes, les Canu Info. Bonne fin d'année.
Le ciel est noir, mon ami, mais j'y vois clair et la pluie.
Der Regen wäscht uns von allen Sünden.
La vie est flamme, mon amour, et le vent souffle.
Der Wind bläst, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
Les nuits sont longues, mon amante, comme une ivresse obsédante.
Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit.
Le long
wen bläst, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.